Souvenez-vous, mercredi soir, le marché était mort. Enfin, presque mort. Mort pour de vrai, hein. Allongé sur une table d'autopsie, le drap remonté jusqu'au menton, le 30 ans américain au plus haut depuis 19 ans, les semi-conducteurs qui se faisaient défoncer pour la sixième séance consécutive, le Nasdaq officiellement en territoire de correction et le patron de la Fed qui parle une heure devant les caméras pour ne strictement rien dire, si ce n'est de perdre le peu de confiance qu'on avait encore en lui. Et puis, il y a une société qui a publié ses résultats. Une seule société. Il aura suffi d'une seule société. Et en 14 heures, le cadavre s'est redressé en mode Frankenstein et a fabriqué 450 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance. C'est le plus gros gain quotidien de l'histoire de Wall Street, toutes époques confondues. Sauf que là, et c'est là que ça devient intéressant, pendant que tout le monde criait au miracle, 70% des actions américaines ont terminé en baisse hier soir. Restez avec moi parce que je vais vous expliquer pourquoi le rebond le plus spectaculaire de l'année est aussi le plus gros mensonge statistique que j'ai vu depuis très longtemps. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. On est le vendredi 31 juillet 2026 et je suis Thomas Veillet au programme Microsoft qui ressuscite la planète, Apple qui publie le meilleur trimestre de son histoire et qui se fait démonter, Amazon qui brûle du cash et qui se fait applaudir, le Japon qui sort l'artillerie lourde en pleine nuit et la Corée qui a complètement pété les plombs, grillé les fusils, disjoncté totalement. C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors pour comprendre la séance d'hier, il faut comprendre ce qui hante les marchés depuis 6 mois. Et comme vous me suivez régulièrement, merci d'ailleurs, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une question, une seule question, qui est comme une écharpe plantée dans le pied des investisseurs depuis 10 mois. Cette écharpe qu'on n'arrive pas à retirer, et cette question c'est... Est-ce que tout ce fric qu'on balance dans l'intelligence artificielle va revenir dans les caisses un jour? Parce que là, on parle de data centers qui sont grands comme un canton suisse, de factures d'électricité dignes d'un pays d'Europe centrale, et en face, on cherche toujours le chiffre d'affaires au microscope. Alors, depuis 6 semaines, le marché punit tout le monde, absolument systématiquement. On l'a vu sur les semi-conducteurs, sur les puces à mémoire, et c'est systématique. Alphabet monte son capex à 200 milliards, bam, sanction immédiate. Tesla montre un cash flow négatif, bam, massacré. Meta, hier, publie un free cash flow en baisse de 91%, bain de sang, moins 8% à la clôture. Bon, c'est quand même un cash flow qui baisse de 91% en un an, mais quand même. Donc, mercredi soir, l'ambiance, c'était « ces types sont devenus fous, ils jouent notre argent au casino et personne ne sait quand c'est que ça va s'arrêter ». Et là, Microsoft a publié. Azure en folie, plus de 100 milliards de revenus cloud annualisés pour la première fois, carton sur Copilot, on en a largement parlé dans la vidéo d'hier. Mais franchement, c'est pas ça qui a fait exploser le titre. Ce qui a fait exploser le titre, c'est une seule phrase. En substance, notre CAPEX n'augmentera pas et on restera en free cash flow positif toute l'année 2027. Voilà, c'est tout. Microsoft n'a pas guéri le cancer, Microsoft a juste dit on va dépenser, oui, mais on va pas se ruiner et on va surtout pas dépenser plus. Et le marché a poussé un soupir de soulagement tellement puissant qu'on a entendu le soupir de soulagement de Séoul à Francfort. Résultat, Microsoft hier a pris 15,51%, meilleure séance depuis le 13 octobre 2008. Et derrière, tout ce qui avait été massacré est revenu d'entre les morts. SanDisk plus 26%, Micron plus 18%, AMD plus 13%, Intel plus 11%. Et l'indice des semi-conducteurs lui-même reprenait plus de 8% en une seule séance. 8% sur un indice sectoriel, en un jour. Et puis derrière, vous avez Nvidia qui, lui, nous fait un modeste plus 2,5%. Mais attendez, il y a une chose qu'on ne relève peut-être pas assez sur Nvidia, c'est que Nvidia se paye aujourd'hui 17,5 fois les bénéfices attendus. C'est son multiple le plus bas depuis 2015. La société la plus centrale de la révolution technologique en cours se paye moins cher que du Coca-Cola. Il y a 48 heures, on vivait dans la terreur de la correction, et ce matin, on trouve Nvidia carrément bon marché. 48 heures, c'est à peu près ça la mémoire à court terme du marché en 2026. Bon, maintenant, je dois vous dire un truc qui vous est peut-être pas forcément aimé. Ce rebond magnifique, ce jour historique, cette résurrection via Microsoft, eh ben, c'est un mensonge. Ah, c'est pas un complot, hein, mais c'est un mensonge statistique. Ce qui est pire parce que personne ne le voit vraiment. Parce que si vous regardez derrière les chiffres, le S&P hors tech, hors technologie, a terminé dans le rouge. Plus de 70% des composantes de l'indice ont baissé. 21 des 30 valeurs du Dow Jones étaient également en baisse. Et la version équipondérée de l'indice, celle où Microsoft pèse le même poids qu'un fabricant de peinture industrielle, perdait 0,8%. Donc le marché n'a pas rebondi. C'est 8 titres qui ont rebondi. Et ils sont tellement énormes qu'ils ont porté les indices sur leur dos comme un déménageur qui porte un piano dans un escalier. Pendant ce temps, le reste du monde, coté, ceux qui fabriquent des vis, qui vendent des yaourts, qui assurent des bagnoles, eh ben, ils se sont fait poliment ignorer par les investisseurs. Alors moi, c'est ça qui me dérange vraiment. On ne fait plus de la bourse, on fait du Microsoft avec un petit peu de décorum autour. Parce que si un matin, un seul de ces 8 titres publie un vraiment mauvais chiffre, il n'y aura personne derrière pour rattraper l'indice. Personne. Le filet de sécurité, on l'a vendu il y a bien longtemps pour acheter des GPU. Maintenant, la pièce d'à côté, parce que pendant que certaines actions faisaient la fête, le marché obligataire, lui, il est resté au bar, tout seul, à picoler. Alors historiquement, le marché obligataire, c'est un peu le type qui a raison en premier. Il est chiant, il est lent, il ne rigole jamais, mais il a raison en premier. Mercredi, la Fed n'a donc pas bougé ses taux, sauf que 3 membres de sur 12 ont voté pour une hausse, et on n'avait pas vu ça depuis 2016. Et puis donc Kevin Warsh est monté au pupitre, il n'a rien dit, mais vraiment rien. Une heure de conférence de presse pour expliquer qu'il y a eu une bonne bagarre de famille et qu'il ne compte plus jamais vous dire ce qu'il va faire. Et il en rajoute une couche, hein. Il suggère qu'il ne va plus vraiment faire confiance au PCE, le PCE qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed depuis 20 ans. Donc, on a une banque centrale qui ne croit plus à son propre thermomètre et qui refuse de dire à quelle température elle veut mettre le patient. Et l'obligataire a répondu immédiatement. On en a déjà parlé hier, mais ça continue. Le 30 ans a pris 7 points de base à 5,24, plus haut depuis 20 ans. Le 10 ans monte à 4,67 et le 2 ans, lui, il baisse. On en a parlé dans la vidéo d'hier, je vous expliquais déjà, mais ça continue encore aujourd'hui. Ça s'appelle un bear steepening. Alors, je vous traduis ça en français, ça veut dire « Je ne crois plus que la Fed va monter les taux à court terme, mais je vais être payé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher pour lui prêter du pognon sur 30 ans parce que je ne lui fais plus confiance pour buter l'inflation. » C'est un vote de défiance déguisé en courbe des taux. Les probabilités de hausse en septembre se sont d'ailleurs effondrées en quelques jours. D'ailleurs, Warsh trouve ça très bien, il paraît. Autrement dit, le marché obligataire fait le sale boulot à la place de la Fed et la Fed, elle reste derrière et elle applaudit tranquillement. Sous-traiter sa politique monétaire au gérant obligataire, c'est comme filer le volant de votre voiture à votre passager complètement bourré en espérant qu'il va conduire mieux que vous. Ça peut marcher, statistiquement ça marche rarement. Maintenant, changement de sujet, parce qu'après la cloche d'hier soir, il s'est passé un truc fascinant, il y a eu deux publications. Deux publications à 10 minutes d'écart, et surtout deux réactions exactement inverses, et on commence tout de suite par Apple. Apple a donc publié le meilleur trimestre de juin, enfin le deuxième trimestre de toute son histoire. 109 milliards de chiffre d'affaires, plus 16%. L'iPhone a 54 milliards, plus 21. Record absolu. Le Mac a plus 28, marge brute à 50,1. Et le titre perdait 6% hier soir. 6% sur le meilleur trimestre de toute son histoire. Alors, je veux que vous compreniez bien où on en est. On en est dans un marché où dépasser les attentes est devenu absolument la norme minimale. Se contenter uniquement de les atteindre, c'est considéré dorénavant comme un échec total. Alors qu'est-ce qui coince chez Apple ? Eh bien les services DSLR, plus 12 contre plus 16 le trimestre précédent, et le service chez Apple, c'est la marge. C'est ce qui justifie tout le multiple. Bruxelles a récemment forcé l'ouverture aux App Store alternatifs. Epic a gagné le droit de facturer hors du système Apple. Le péage de 30% commence à fuir de partout. Mais le vrai sujet, c'est la guidance. 9 à 11% contre 12 espérés. Et Tim Cook a été d'une honnêteté rare sur le pourquoi du comment. C'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Apple manque de puces. Apple, la société qui a bâti tout son empire sur une maîtrise chirurgicale de la chaîne d'approvisionnement, Apple manque de mémoire pour ses propres processeurs. Et vous voulez la meilleure ? Apple est la seule des Magnificent Seven à n'avoir pas englouti des centaines de milliards dans l'IA. C'est exactement ce qui lui a permis de surperformer tout le monde depuis le début de l'année. Sauf que l'IA vient quand même la chercher par la pénurie de mémoire que la course au data center a créée. Apple a esquivé la dépense et encaisse quand même la facture, j'ai envie de dire, en pleine gueule. Détail pas anodin, c'était aussi la dernière présentation de Tim Cook, 15 ans à la barre, une boîte passée de 350 milliards à 5000 milliards, et il part sur un record de vente et une action qui perd 6%. 10 minutes plus tard, c'était Amazon. Le seul chiffre qui comptait, c'est Amazon, c'était AWS, plus 37%, 42 milliards, la croissance la plus rapide depuis 18 trimestres, presque 5 ans. Le titre prend jusqu'à 9% après la clôture. Sauf que, et c'est ici et c'est là que le marché révèle sa schizophrénie complète, Amazon annonce dans le même communiqué un free cash flow sur 12 mois négatif, moins 7,6 milliards contre plus 18 un an plus tôt. Récapitulons. Meta, cash flow effondré, titre moins 8% hier soir. Amazon, cash flow carrément négatif, titre plus 9%. Où est la différence? Elle est assez simple, elle est brutale et elle explique toute la psychologie du marché en 2026. Chez Amazon, on voit où va l'argent et on voit ce qu'il rapporte. AWS, plus 37%, c'est un ticket de caisse. Chez Meta, on voit l'argent partir dans des GPU pour construire une super intelligence dont le modèle économique consiste à ce jour à vendre de la pub entre deux vidéos de Golden Retriever. Le marché ne punit plus la dépense, il punit la dépense sans le ticket de caisse justificatif. Le « je dépense à n'importe quel prix » est mort cette semaine. Il était remplacé par « dépense, d'accord, mais monte-moi d'abord la facture ». Et franchement, c'est la meilleure nouvelle de tout ce cycle. J'espère juste que ça va tenir plus de 3 semaines. Et puis alors maintenant, je vais vous raconter, je vais vous narrer ce qui s'est passé cette nuit. Et je pense que c'est l'événement le plus important de la semaine et que personne n'en parlera. Ou en tout cas, pas beaucoup. Le yen japonais était tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar. 40 ans! Parce que vendre du yen, ces derniers mois, c'était devenu le trade le plus confortable du monde. Le mécanisme est hyper simple, vous empruntez à 1% au Japon, vous placez à 4,6% aux États-Unis et vous encaissez la différence. En prime, la devise que vous avez empruntée se déprécie, donc vous remboursez encore moins cher. C'est de l'argent gratuit. La sieste financière la plus rentable de la finance mondiale. Et puis hier, en pleine séance américaine, le dollar yen, boum, il s'effondre. De 164 à moins de 158. Et tout ça en quelques heures. Aucun communiqué, aucune annonce, juste un mur d'achat qui tombe du ciel. Oui, Tokyo est intervenu. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les autorités américaines auraient, conditionnel, procédé à des rate checks, donc des coups de fil aux banques qui précèdent une intervention, et pendant que la Corée du Sud était en train de vendre du dollar en parallèle. Trois pays, la même nuit, intervention coordonnée, c'est très 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 rare. Et le timing n'est pas complètement un hasard, hein. C'était juste avant la réunion de la banque centrale japonaise, qui ce matin a fait exactement ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire rien du tout. Et le yen est reparti déjà à 160,5. Donc deux leçons à tirer de tout ça. La première, c'est que les interventions de la BOJ ne durent jamais très longtemps. En avril, Tokyo avait claqué 73 milliards pour 6 semaines de répit. On n'arrête pas une tendance de fond avec une carte de crédit. Mais la deuxième est beaucoup plus importante et elle est passée totalement inaperçue. Le carry trade sur le yen vient de perdre un certain confort. Jusqu'ici, vendre du yen, c'était un pari à sens unique et sans stress. Si Tokyo est maintenant prêt à intervenir avec l'appui de Washington et de Séoul, le coût d'être vendeur de yen vient de grimper d'un coup, le coût du risque. La tendance n'est pas cassée, bien sûr, mais le confort, lui, il est un tout petit peu cassé, c'est le cas de dire. Et un carry trade sans confort, eh bien, c'est un carry trade qui va commencer à se déboucler inévitablement. Demandez à ceux qui étaient en vacances au mois d'août il y a encore 2 ans, je suis sûr qu'ils s'en souviennent encore. Et puis alors maintenant, on a la Corée, parce que là, on quitte la finance pour entrer dans la psychiatrie. Le KOSPI est officiellement devenu une crypto-monnaie. Ce matin, le KOSPI a ouvert en hausse de 16,5%, 16,5% en une séance. Hein. Et puis là, à l'heure où je vous parle, on est déjà quasiment à 18%. Samsung, plus 21%, SK Hynix, plus 26%. Sa meilleure séance de tous les temps, c'est un short squeeze massif en règle. Et le plus dingue, c'est que les deux avaient publié cette semaine d'excellents résultats. On en a parlé en début de semaine. Profit record pour l'un, revenu record pour l'autre. purement et totalement ignoré parce qu'on était en plein carrelage sur le secteur. Voilà, tout simplement, le marché de la mémoire en 2026, c'est des sociétés qui gagnent plus d'argent qu'elles n'ont jamais gagné, dont les titres font moins 17% en 3 jours, puis plus 25% en une matinée. C'est plus un marché, c'est une crypto. Et tout ça, malgré ce rebond monstrueux, le KOSPI reste quand même sur moins 24% de performance sur le mois de juillet. Sa pire performance mensuelle depuis 1997. La crise asiatique, le FMI qui intervenait, les Coréennes qui apportaient leurs bijoux à l'État, bref, la catastrophe. Les autorités ont d'ailleurs dû restreindre en urgence les produits à effet de levier parce que pendant que les institutionnels débattaient de la valorisation des titres de mémoire, des ménages coréens, eux, jouaient leur retraite sur du triple levier et le triple levier, ça finit pratiquement toujours pareil. Et puis alors en Europe, c'est plus ou moins la même comédie en plus petit. On a eu Adidas qui plongeait jusqu'à moins 18% en séance, 2 mois de rêve Coupe du Monde effacés en 3 heures. Et attention, les ventes sont à 2 niveaux records. Le résultat opérationnel rate tout simplement le consensus. Vous pouvez donc battre tous les records historiques de votre société et vous prendre 19% dans la figure parce que quelqu'un, quelque part, dans une banque d'affaires, espérait quand même un chiffre un peu plus gros que le vôtre. Cherchez la logique. Il n'y en a pas. Mais ce qui est surtout frappant, c'est la violence des mouvements. Toutes les réactions sont hyper amplifiées. C'est un signe. Ou un signe, je ne sais pas. Je ne sais même pas la couleur du signe d'ailleurs, mais c'est un signe. Donc, voilà où on en est ce matin. Vous avez un marché des actions qui explose, mais seulement 8 titres qui montent, un marché obligataire qui hurle au danger et que personne n'écoute, une banque centrale qui refuse de dire ce qu'elle pense, et vous avez 3 pays obligés d'intervenir ensemble pour tenir une devise et des sociétés qui battent tout le record et qui se font démolir quand même. C'est pas un marché rationnel, hein. C'est même plus un marché émotionnel, c'est psychédélique. Ce marché est sous perfusion et tout le monde regarde le même écran, achète les 8 mêmes titres et croise les doigts pour que le type qui gère Azure continue de faire correctement son boulot. Alors maintenant, allez profiter sérieusement du week-end parce qu'on est vendredi, que Trump est en train d'hésiter sur l'Iran depuis 3 jours et que je vous garantis qu'il va nous faire un truc avant lundi matin. Et si vous voulez ma conclusion en une phrase, hier le marché ne s'est pas réveillé, il a eu un sursaut. Et un sursaut, c'est pas la même chose qu'un pouls. On se retrouve donc lundi matin, prenez soin de vous, prenez soin de vos positions et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Demain, je serai en déplacement, il n'y aura donc pas de Swiss Bliss, mais je vous ferai une vidéo supplémentaire récapitulative lundi pour faire un point hebdomadaire. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.